Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regard d'ailleurs. Regard d'ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers des expériences de vie. Donc avec moi, Élodie, que j'ai rencontrée ici sur un festival, et tu m'as dit entre deux lignes, je suis voyageuse. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre le temps de te rencontrer. Et effectivement, j'ai l'impression que tu as commencé très tôt, mais déjà tu as commencé par un voyage intérieur. Donc on va revenir peut-être à Élodie enfant, avant de Élodie à l'exploration du monde, reviens sur ton enfance et à quel moment tu as compris que finalement, les frontières étaient assez subtiles et elles ne se limitaient pas forcément à celles qu'on avait dans nos manuels d'histoire.
Enchantée, merci Alexandre pour ce moment partagé. Eh bien, j'ai commencé quand j'étais enfant, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas de séparation, pas de limite entre les mondes, que ce soit le monde intérieur, le monde extérieur, le monde des esprits, tous les continents, tous les territoires. Et ça, c'était plutôt une sensation interne que j'avais le sentiment que chacun pouvait porter en soi et pas forcément matérialiser. Je l'ai pris conscience plus en grandissant où je me suis rendu compte que j'étais presque, j'avais le sentiment en tout cas d'être la seule à avoir ces perceptions. Et puis ça m'a amenée à rencontrer d'autres personnes sur des salons qui ont vu en moi justement ce qu'on nommait médiumnité, à pouvoir observer la communication avec les esprits, avec les ancêtres, avec les autres plans.
Bon, là, tu nous emmènes tout de suite dans le subtil et dans l'invisible. Donc, ok, merci pour ça et pour livrer cette partie de toi. On aurait pu commencer de manière un peu plus matérielle, mais bon, d'accord. Voilà, tu parles qu'enfant, effectivement, tu avais ces perceptions. Donc, on va quand même un peu détailler, décrire bien ce sûr. Que c'est, parce que l'émission radio s'adresse à tout le monde. Et tout le monde n'a pas forcément ces perceptions, qu'on peut d'ailleurs questionner pour quelqu'un qui a un esprit cartésien, pas forcément accès à l'invisible, donc revient ou rassure aussi peut-être celui qui nous entend pour expliquer comment ça a commencé chez toi et comment ça se manifeste et de quoi on parle.
D'accord. C'est vrai, Alexandre, pour dire, ma famille aussi n'était pas forcément dans cette perception-là. Je m'en suis rendu compte parce que quand j'étais dans ma salle de bain, par exemple, quand j'étais adolescente ou enfant, j'avais la présence de mes ancêtres qui étaient là, donc défunts. Et pour moi, c'était quelque chose de normal et naturel de les entendre, de les voir, de les sentir. Comme s'ils étaient là, comme un film, un peu un hologramme, quelque chose, une présence, une vibration, une fréquence qui accompagne et en même temps qui transmet des choses qui sont concrètes et une présence bienveillante et soutenante.
Donc là, tu es en train de nous dire qu'enfant, dans ta maison, il y avait déjà les défunts, donc les morts, qui étaient en connexion ou en contact avec toi.
Oui, exactement.
Mais sous quelle forme? Donc tu pouvais recevoir des messages, les gens te parlaient, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père pouvaient rentrer en contact avec toi et transmettre des messages à travers toi au reste de ta famille?
Alors oui, tout à fait, ils passaient par moi en fait comme un canal, comme un messager, pour passer des messages qui ont du sens avec ce que chacun vivait dans l'instant présent. Par exemple, un jour, mon frère avait une problématique rattachée à un ami et les esprits sont passés par moi pour venir le prévenir, en fait, comme un messager pour le mettre en sécurité, le protéger. Mais ça peut être aussi des messages d'amour. Une fois, une jeune femme que je ne connaissais pas était dans un rassemblement j'entends... comme si on me dit, son papa lui dit je t'aime. Et donc je vais vers elle et je lui dis, ton papa te dit je t'aime. Et elle se met à pleurer, elle me dit merci, je savais pas en fait, j'attendais ça de lui, mais j'ai pas pu l'entendre à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, en fait, il a pas pu me transmettre, j'ai pas pu le sentir et c'était important pour moi. Et donc ça s'est fait comme ça, naturellement, les choses se sont... on fait le pont aussi pour moi, parce que moi aussi, je comprenais pas, c'était normal pour moi, mais en même temps, le doute de certaines autres personnes qui n'avaient pas ces perceptions-là me renvoyait aussi à me dire, mais est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est OK tout ce que je reçois? Pourquoi c'est là, en fait?
Ouais, donc là, tu nous emmènes tout de suite dans la médiumnité. Je m'attendais pas à ce qu'on en parle tout de suite, mais bon, OK. Mais comment c'est possible, finalement? Et pourquoi est-ce que certaines personnes ont ces perceptions et d'autres pas? Comment est-ce que tu peux l'expliquer?
Bon, pour moi, j'ai le sentiment qu'on a tous cet espace en nous. Pour moi, c'est un espace que je définirais, une porte de l'intérieur qui est celle du cœur, qui nous rallie peut-être à quelque chose de plus subtil qu'on pourrait appeler la source, l'âme ou le subtil ou l'au-delà. Et en fait, cet espace-là, et quand on se pose en soi, quand on écoute au-delà de tout ce qui est, en fait, il y a cette voix qu'on peut nommer guidance, médiumnité. Il y en a qui diraient l'esprit, le mental. Il y a plein de façons de nommer, ou pas d'ailleurs, cette voix, et de l'écouter, et puis pourquoi pas la partager si on sent que c'est là et que la personne en face aussi a l'espace pour recevoir.
Comment est-ce que tes parents accueillent ce don, ce potentiel que tu as quand tu es enfant, et puis que tu commences à exprimer le fait que tu reçoives des messages, que tu es connecté à des esprits, des entités, des guides, on appelle ça comme tu veux, mais voilà, comment tes parents réagissent par rapport à tes perceptions?
Au début, ils ont peur, ils sont surpris, ils ne savent pas trop comment faire, et ils se sentent responsables de ce qui vient, et en même temps, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils m'envoient sur un salon bien-être un peu pour voir comment, s'il y a d'autres personnes comme moi. C'est ce qu'elle m'avait dit, ma mère, à ce moment-là. Et donc, je rencontre une femme qui tenait le salon, je ne savais pas, et je me mets à lui parler. Et là, elle me dit « t'es médium ». C'est la première fois, on va dire, que j'entends ça, et ça fait oui à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé comme ça, à 17 ans, à partager.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu peux définir le mot médium? Qu'est-ce que c'est qu'être médium?
Pour moi, être médium, c'est donc messager ou intermédiaire entre les ponts, les mondes. Les espaces aussi, ça pourrait être entre le corps et l'esprit, ça peut être entre tous les plans, entre les communautés aussi, si on veut. C'est un passage.
Donc là, on ne parle pas de voyance, hein, il n'est pas question de prévenir l'avenir, c'est vraiment ressentir des intuitions, des messages que tu as dans l'instant présent par rapport à tes proches ou par rapport à des personnes ou par rapport à ceux qui viennent te voir.
Ça peut être de la médiumnité ou de la guidance, donc des messages avec les esprits, les défunts, mais ça peut être aussi avec le plan de la conscience, ça peut être aussi avec des prémonitions sur le plan de l'avenir. Donc oui, il peut y avoir de la voyance. Après, moi, j'ai jamais aimé trop définir, en fait. Je trouve que c'est limitant et que c'est plutôt qu'est-ce qui touche dans l'espace du présent, de ce qui est offert à vivre et du message qui doit être passé et reçu.
Donc tu es enfant, tu grandis avec ces perceptions, avec ce potentiel-là. Donc tu vas au collège, au lycée, donc autour de toi, j'imagine que peu de gens partagent ta réalité.
C'est ça, je me sentais un peu seule au monde, et pour moi, c'est pour ça que... Et en même temps, je me sentais tellement avec tout ce qui est, mais à un autre plan, que c'était évident pour moi de partager ça, de voir comment... Avec le temps, en fait, j'ai compris, mais c'était comment on peut rassembler, comment on peut réunir, comment on peut être avec tous ensemble, parce que c'était évident que chacun porte ça, et il y avait quelque chose de l'ordre de la reconnexion. Mais ça, c'est venu, les gens m'ont demandé, en fait. Quand au début, ils étaient surpris, ils étaient touchés, ils avaient peur, et puis petit à petit, quand j'ai commencé à pratiquer, on me demandait, mais comment tu fais? Comment c'est venu? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux nous apprendre? Et là, j'ai dit, OK, d'accord, j'accepte. De partager, de transmettre, et pour moi c'était comment moi ça a fonctionné. Si pour moi ça fonctionne, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les autres. Après tout, on est tous humains au-delà de tout ça, Et que et c'est comme ça que qu'est venu en fait des formations, des enseignements que j'ai commencé à partager.
Et quand tu en parles autour de toi et que les gens viennent te voir, j'imagine que tu as aussi affaire à tous les sceptiques qui ont besoin de preuves.
Oui, j'ai été testée et on l'est toujours, pas que dans ce domaine d'ailleurs. Je me rappellerai toujours d'une expérience où il y a un homme qui vient, donc c'était dans les premiers salons que j'ai fait en tant que médium. Donc c'était sur les salons bien-être au début, puisque je me cachais en parallèle, je faisais mes études, donc forcément c'était un peu... secret, j'ai envie de dire tout ce qui est sacré est un peu secret d'une certaine manière, et donc il y a cet homme qui vient et qui se cache en fait de sa véritable identité comme il veut me tester, mais aussi c'est parce qu'il avait perdu la foi, cet homme, et c'était une façon de se convaincre qu'il avait raison d'avoir perdu la foi. Donc il me cachait sa vérité, mais je sentais moi que c'était pas juste en fait, je lui donnais des éléments et il était là, non, et je sentais que ça faisait oui à l'intérieur. Et à un moment donné, je lui dis, bon, c'est bon, t'as fini de te cacher, je te vois. Et je sais que ce que je te dis, ça te parle et que ça fait partie de toi. Et là, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, oui, c'est vrai, je suis médium aussi, j'ai perdu la foi. Et je te remercie parce qu'en fait, ce que tu me partages, c'est tellement juste que je ne peux pas ne pas le reconnaître et apprendre à échanger. C'était très, très beau.
C'est quoi la foi ? Avoir la foi, perdre sa foi ou avoir la foi, comment tu définirais le mot foi, avoir la foi ?
Avoir la foi, c'est quelque chose qui est au-delà de la religion, qui est vraiment un passage, un chemin, une connexion, justement avec la totalité, avec l'unité, avec un sentiment de non-dualité, cet espace où on est unis, où on est l'union, en fait, on est ensemble. On porte j'aime bien dire, se redresser dans son cœur, il y a cet espace-là.
Élodie, tu me disais avant, all is possible, tout est possible, c'est vrai. Donc toi, tu fais partie de ces gens qui ont choisi de créer leur réalité. Donc tu finis tes études, se pose la question de ce que tu vas faire dans la vie. Donc voilà, il y a toujours cette question qui est posée par son cercle d'amis, son cercle familial. Essayer de trouver sa place au monde. Donc toi, comment est-ce que tu as fait ? Quelle est la place que tu as trouvée quand tu t'es posé la question, et comment est-ce que tu as fait pour la trouver ?
Eh bien, il y avait deux choses. Je venais de finir mes études, j'avais à peine 21 ans, et du coup, il y avait donc la médiumnité, et puis les voyages. Je voyageais beaucoup, j'ai commencé par l'Égypte, passionnée par l'Égypte, et toutes mes études. Et je me disais, bon, et je me sens pas prête, en fait, à être vue. Donc, j'ai choisi de me cacher un petit peu et de faire des soins alternatifs sur Nantes. Je monte un centre de soins alternatifs. Pendant 7 ans, j'ai fait ça en parallèle de la médiumnité en sous-marin et des voyages. Donc, c'était ma façon à moi de respecter, en fait, là où j'étais et ce que je porte aussi, de prendre soin. Parce que pour moi, soigner, c'est prendre soin. Donc, peu importe. La barrière, on va dire, entre guillemets... que je m'étais mis, elle était aussi intéressante, parce qu'on peut passer par, comme dit Bouddha, par la beauté intérieure ou la beauté extérieure. Donc moi, j'ai passé par l'extérieur pour aller à l'intérieur, et on peut passer par l'intérieur pour aller à l'extérieur, peu importe.
Le voyage, donc tu disais que tu es aussi voyageuse, à quel moment le voyage est entré dans ta vie et par quelle porte ?
Ça a commencé quand j'étais enfant, je faisais déjà ce qu'on peut nommer, parce que moi j'aime pas trop nommer, mais des sorties de corps, des voyages astro, ou des rêves, déjà, il y a cet espace-là, mais ensuite, bien évidemment, par le monde du rêve, qui d'ailleurs, est-ce pas la réalité finalement, on sait pas trop, hein. Et encore une fois, il n'y a pas de séparation, et dans cet espace de rêve, il y avait tout le temps les pyramides et l'œil d'Horus qui venaient, donc c'était devenu un peu une obsession, donc j'ai commencé à étudier l'Égypte, ça amplifiait mes visions, donc après je travaillais beaucoup aussi avec l'oracle de la triade, donc c'est aussi un oracle égyptien, et l'appel du voyage est venu très fort, donc je suis partie en Égypte en à peine 18 ans, et j'y suis retournée 5 fois, je crois, dans les années qui ont suivi.
Donc c'est pas tes parents qui t'ont mis un pied dans l'univers du voyage ?
Non, je crois qu'ils ont jamais voyagé à l'étranger.
Okay. Donc c'est vraiment tes perceptions, tu parles de voyage astral, de sortie de corps, où tu avais cette vision de l'Égypte, tu t'y intéressais, tu t'es dit maintenant j'y vais.
Ouais, pour moi c'était un appel très fort, et en fait quand j'y suis allée, c'était une obsession après d'y retourner. Voilà, pour moi je nomme ça appel, et puis d'y répondre, et en fait voir comment ça réagit, et en fait à chaque fois que j'écoutais et que je répondais aux appels, ça se passait bien.
Mais quand t'as un appel, t'as aussi des fois des peurs, comment tu fais de tes peurs ? Qu'est-ce que tu fais de tes peurs ?
Et ben en fait justement je me servais aussi de ça pour les dépasser, pour me dire si j'ai peur, c'est aussi que c'est bon pour moi, parce que derrière chaque peur, il y a des envies, il y a des cadeaux. Donc c'est un bon guide aussi, la peur, pour se dépasser, pour évoluer, pour s'éveiller. Et parce que derrière chaque chose, enfin toute chose, et d'ailleurs on est issu de ça, c'est l'amour.
Donc Jeanne, tu pars en Égypte avec sûrement plein d'idées que tu avais avant d'y aller. Et qu'est-ce qui se passe en y arrivant? Donc tu as 18 ou 19 ans, tu te retrouves sûrement au Caire. Et après?
Alors, en Égypte, plein de choses. Donc à ce moment-là, j'étais à la fois consciente et inconsciente. Et on apprend tous les jours. Mais j'étais pas vraiment dans une conscience que j'ai aujourd'hui avec les apprentissages que j'ai eus depuis. Mais...
Donc à cette époque-là, c'est Elodie, jeune aventurière. À ce moment-là, tu n'es pas encore en train d'encadrer ou d'emmener avec toi des gens en voyage.
Tout à fait. Ensuite, j'ai continué à voyager avec l'Inde. Je me suis formée au yoga et c'était évident pour moi d'aller en Inde. Donc je vais en Inde et puis j'y retourne. Et puis je commence à donner des cours, à faire des enseignements. Donc les personnes autour de moi me disent « Ah mais c'est génial, je rêverais d'aller en Inde ». Mais j'aimerais pas y aller toute seule, j'ai un peu peur. Et puis une personne, deux personnes, trois personnes. Et pour moi, c'est important de sentir ça, en fait, ces appels aussi de l'extérieur qui te, comme tu dis, vas-y, c'est par là que ça se passe. Et donc, un jour, quelqu'un me dit, toi, tu pourrais pas m'accompagner? Et je dis, si, on n'a qu'à faire ça. Et puis, j'ai commencé à créer une retraite de yoga et spiritualité. J'avais déjà commencé au Maroc et puis ensuite en Inde, et là il y a en Égypte, sûrement Bali, enfin d'autres destinations qui vont se faire. Ça fait maintenant 6 ans.
Donc avant de parler des voyages que tu accompagnes, je reviens quand même à l'Inde. Donc là, oui. Tu pars seule aussi?
Je pars seule en Inde, oui, pour me former. Il y avait pas de peur à cet endroit-là. Il y avait juste une sensation de... Enfin, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de peur. En fait, je me souviens très bien de cette fois où je pars avec mon sac à dos toute seule et où je me dis dans l'avion, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de frontière. Pas de séparation, il n'y a pas de frontière, c'est juste une sensation, une perception qui est mentale. Et si je reviens juste à moi, dans ce que je ressens, c'est une terre entière à tout le monde. Et je dis ça, et au moment où je rouvre les yeux, il y a un couple d'Indiens juste à côté de moi, en fait, qui me prend par la main et me dit « D'où vous venez ? Vous êtes indienne ?» Je rigole, je ne ressemble pas à une indienne. Hein. Et je rigole et je dis « Non, mais j'adore l'Inde, j'aime l'Inde. » Et là, je la vois avec un mala pour prier, et puis son mari aussi à côté. Ils m'ont traité comme leur enfant pendant tout le vol. C'était incroyable. Donc voilà, petit clin d'œil.
Quand tu pars en voyage, est-ce que tu pars avec un billet retour ou c'est une immersion que tu vis dans le pays? Comment est-ce que tu organises ton voyage?
Alors pour moi, j'aime bien sentir ces espaces comme ça d'appel. Donc en général, je prends un billet aller, des fois le retour si j'ai des obligations après en rentrant. Mais j'aime bien autrement me laisser porter par ce qui s'offre dans l'expérience, s'il y a les rencontres, les envies du moment. Donc il y a des choses qui sont posées et puis d'autres choses qui sont plus libres. Ça fait un bon équilibre pour moi en tout cas.
Une question que je pose souvent, voyager, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente le voyage?
Pour moi, le voyage, c'est me rencontrer aussi au travers d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres pays, d'autres couleurs. C'est une autre partie de moi que je rencontre qui sont un tout.
Et quand tu parles là, donc, de voyage en Inde, c'était pour te former au yoga. Tu avais quand même toujours dans tes voyages, j'ai l'impression, une direction, ou en tout cas un but. Quand tu parlais de l'Égypte, c'était par rapport à tes visions ou par rapport à un centre d'intérêt qui était très prononcé pour l'égyptologie et tous les symboles qui vont avec. L'Inde, tu parles du yoga. Donc, est-ce qu'il y avait toujours cette envie d'apprendre quelque chose ou, voilà, comment tu construis tes voyages?
Alors, oui, c'est vrai que le désert marocain, on m'a invité à organiser des retraites dans le désert. Mais après, je me suis rendu compte, effectivement, sur place, qu'il y avait des mémoires aussi qui se réactivaient. Mais c'était une coïncidence. Parce que c'était pas forcément inné, même en Égypte. C'est pas parce que j'avais des visions que c'était évident. En tout cas, à l'époque, maintenant, ça commence à l'être un petit peu plus, puisqu'avec l'Inde aussi. Et je me laisse surprendre, quand je découvre une terre, de sentir s'il y a une résonance ou pas. C'est pas toujours le cas. Mais sinon, oui, j'aime bien avoir une direction pour... comme guide. En fait, c'est un peu comme un guide, hein, et ça m'oriente. J'aime bien travailler comme ça aussi, avec les groupes, avec des intentions, des directions, et après, laisser les choses se faire d'elles-mêmes.
Donc aujourd'hui, quand j'entends Elodie, donc tu es voyageuse, mais aussi, enfin, t'as rendu le voyage, t'en as fait une activité professionnelle à travers les stages que tu animes et que tu encadres.
Oui, c'est venu du coup d'organiser des retraites à l'étranger, puisque je donne des formations, mais aussi au travers des retraites, l'immersion amène aussi un travail plus profond et qui rassemble et qui fédère et qui permet aussi de voyager intérieurement, extérieurement. C'est toujours intéressant des fois de sortir de sa zone de confort, entre guillemets, ou de sa zone d'habitude pour pouvoir déconstruire et reconstruire des bases plus saines. Et aussi voyager en fait tout simplement en groupe, mais en même temps c'est un travail à la fois personnel et collectif.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant, tu as aussi expérimenté la vie en van. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience ou cette étape de ta vie ?
Eh bien, en fait, quand il y a eu le confinement, j'étais dans une phase où je voyageais beaucoup. À peu près tous les 2 mois, je partais. Donc, quasiment 1 mois sur 2, j'étais partie. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire ? Et là, je me suis dit, bah, je vais prendre un camion. J'avais eu pas mal d'enseignements, je donnais pas mal de formations et du coup, ça me permettait de pouvoir me déplacer aussi, donner des formations partout en France et un peu à l'étranger. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à sillonner la France, qui est d'ailleurs magnifique. Et parce que c'est quand même bien aussi de découvrir son pays, même si voilà, c'est un peu plus. Donc, c'était très intéressant, surtout que c'était assez agréable puisqu'il n'y avait pas de circulation pendant le confinement, et de ce sentiment de, à nouveau, finalement, d'être libre en toutes circonstances. C'est vraiment un choix personnel et de pouvoir rencontrer les personnes, voir comment ils vivent aussi, comment ils vivent l'expérience, qu'est-ce qu'ils en font, et continuer à transmettre et à partager ce qu'on est en toutes circonstances aussi.
Voyager, être libre, c'est quoi être libre ?
Ben, pour moi, c'est de choisir. C'est vraiment cet espace en fait, où la vie nous offre le choix. Moi, je vois plus la dualité comme un choix. C'est-à-dire que bah, ça reste un choix, finalement, de choisir. Et c'est cette liberté de pouvoir choisir. En toutes circonstances, on a le choix de comment on va appréhender une expérience, quel regard on va poser, comment on va réagir ou pas à chaque chose.
Aujourd'hui, on est quand même on évolue dans un monde relativement complexe où beaucoup de gens cherchent le sens de leur vie, quel est le sens donné à son quotidien finalement. Donc j'ai l'impression que toi, ton sens, il est venu de manière assez jeune, assez spontanément.
Alors oui, non. j'ai connu aussi des phases, toute ma première partie de vie, on va dire. Parce que j'ai encore le temps. Mais dans l'enfance jusqu'à l'adolescence...
Tu peux le poser aussi, t'as quel âge ? On n'a pas parlé de ton âge.
Ah oui, 37 ans. Et ça fait bientôt 20 ans que je travaille, enfin j'œuvre. Et donc, on va dire que la première partie, jusqu'à ce que je commence à partager, on va dire, ce pourquoi je suis là, on va dire ça comme ça. C'était plus fastidieux. Il y avait une enfance quand même compliquée. Et puis, une adolescence aussi. Et finalement, pour moi, quand on trouve sa voie, son chemin, quel qu'il soit, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, le chemin ou la voie, c'est l'espace où il y a de la joie. Si c'est joyeux, c'est pour moi.
Alors, on va peut-être donner des conseils, parce que quand on est dans cette quête, hein, quête de sens, quels sont les indicateurs ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir à quelle direction prendre ? Donc, dans des festivals en plus comme celui-là, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont là en quête, en recherche de quelque chose. Et c'est vrai, je crois que c'était Krishnamurti qui disait « S'adapter à un système malade n'est pas forcément un signe de bonne santé mentale. » Et on vit dans un monde avec des valeurs qui sont ce qu'elles sont, mais qui ne correspondent pas à tout le monde. Donc quels seront les conseils à donner à celui qui a envie de remettre un peu plus de résilience ou un peu plus de sens dans son quotidien ?
Bien, moi, j'aime fonctionner dans le sens où si à l'extérieur, ça ne te convient pas, regarde à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur que tu vas trouver les réponses. Parfois, on peut avoir le sentiment que le monde n'a rien à t'offrir et que peut-être que c'est toi qui es venu apporter quelque chose au monde aussi. En fait, finalement, tout a sa place. Et tu peux aussi regarder dans cette direction-là et te dire bah, qu'est-ce que je peux offrir et partager aujourd'hui. Donc, si ça manque de joie à l'extérieur, peut-être toi, à l'intérieur, tu as de la joie à partager, offrir au monde. Donc, c'est ça aussi que chacun peut contribuer. Et c'est pas grave, en fait. Rien n'est séparé, mais en même temps, tout est complémentaire. Si à l'extérieur, c'est triste, bah, tu peux amener du réconfort. S'il pleut, tu peux être un soleil. En chaque circonstance, tu choisis. Donc, les valeurs, c'est propre à chacun. Pour moi, c'est ça le pilier de chacun. Donc, et que chacun respecte ses valeurs. Et par l'écoute de ses besoins. Et si chacun s'aime, on ne peut pas faire de mal à quelqu'un si on s'aime. Et si ce n'est pas accueilli en face, c'est autre chose. Mais si on s'aime et qu'on se respecte, ça ne peut qu'être une présence qui inspire et enseigne aussi par cette présence en elle-même. Donc, dans cette écoute de soi, dans le respect de ses besoins, dans cette présence, c'est aussi un enseignement. Donc, quoi qu'il se passe à l'extérieur, reviens à toi, reviens à ton cœur, reviens à ce que t'aimes, ce qui te fait du bien, ce qui te met en joie, et partage-le et offre-le, même si personne va bien. Bah, toi, tu peux choisir d'aller bien, tu peux choisir de continuer à être ce que t'es, à porter tes valeurs, à être fier et voilà, être dressé dans ton cœur.
Ouais, cette notion de mindset, hein, cet état d'esprit à essayer d'avoir dans son quotidien, mais c'est pas toujours simple quand on est pris dans le tourment ben justement des habitudes et du quotidien et d'une vie des fois un peu désorganisée et pas toujours très simple. Est-ce que toi, le fait d'avoir été un médium ou d'être médium, ça t'a permis, tu penses, ben, à travers les messages que tu reçois ou tes guides, d'avoir, je sais pas, peut-être un coup de pouce pour pouvoir trouver plus facilement ta place au monde?
Probablement parce que justement, c'est eux qui m'ont enseigné ça. Quand j'ai commencé à faire des guidances de manière affirmée, j'ai reconnu, on va dire, j'ai accepté ce que j'ai, parce que c'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on l'accepte. Hein, la vie ou d'être un homme, une femme, enfin voilà, tout ça c'est des choix qu'on ou pas, en tout cas des sensations, des moments qui se posent. Et ben quand j'ai accepté de ce que j'ai, on va dire la médiumnité, j'ai commencé à faire des consultations et j'en avais beaucoup. Et en fait, il y avait des phrases qui me venaient de. Alors après, j'ai su que ça existait, hein, la programmation des programmations, la PNL, etc. Mais moi, ça me donnait des phrases à donner aux gens pour les reprogrammer, les reconditionner. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne le faisais pas, mais ça marchait pour les gens. Ils me rappelaient, ils me disaient « Mais Élodie, j'ai arrêté de boire, c'est incroyable. En 15 jours de phrase, ça fait 30 ans que je suis alcoolique, je bois plus, quoi. » Et moi, j'étais là « Ah ouais, mais c'est bien, mais moi, pourquoi je ne le fais pas, en fait ?» Et donc, ironie du sort, je me mets à faire un atelier en donation pour faire des phrases, pour me motiver moi aussi, parce que bah, moi aussi j'ai mes résistances.
Tu veux dire, tu recevais des phrases pour d'autres, mais que tu n'appliquais pas à toi-même.
Voilà, j'avais pas pris le temps en fait de me le faire. Et du coup, je fais l'atelier et puis je me suis mis à faire cette programmation, des programmations pendant 6 mois intensifs et j'ai vu les choses changer. Mais ça part d'un travail et d'un choix, un nouveau personnel de se changer, parce que tu peux pas changer le monde, mais tu peux te changer toi, tu peux choisir en fait d'être meilleur pour toi-même et pour les autres. Donc à chaque instant, avec la répétition, tu viens par exemple changer les choses en soi. Et si toi tu vibres quelque chose de bon, si tu te sens bien, c'est communicatif, et moi j'aime à dire que c'est contagieux. Donc voilà, donc j'adore contaminer les gens avec un sourire, avec des compliments, avec de la joie, avec sa présence, sa lumière, et puis en fait ça fonctionne.
Comment tu définirais Élodie aujourd'hui à 37 ans ?
Je me définirais pas, parce que j'ai compris que c'est à nouveau une forme de limite et de séparation. Je me sens plutôt unie à tout ce qui s'offre. De choisir de regarder, d'embrasser cette totalité le plus possible avec amour et avec foi. Il y a une phrase d'Ama que j'aime beaucoup qui dit que le courage, c'est le langage du cœur. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai, en fait, je comprends chaque personne qui peut vivre des choses, qui traverse des choses, tout le monde. tout le monde, tout être humain en fait vit des choses, même les maîtres, ils vivent aussi des choses, on est humain, donc on est tous un pas dans cette humanité. Eh bien, le courage, voilà, le langage du cœur, c'est qu'à chaque instant, bah, juste te déposer en toi avec amour, avec compassion, avec bienveillance, et puis te redresser à nouveau dans ton cœur, et ça demande du courage.
Merci Elodie.
Merci à toi Alexandre, et merci à vous tous.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.